Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
C'est la dernière heure ensemble des grandes gueules du sport. On est avec Mario Bartoli, avec Jérôme Pinault, avec Simon Dutin. Vous pouvez déjà retrouver les deux premières heures en podcast. On a parlé de Lens Paris Saint-Germain. Le trophée des champions. C'est le trophée des champions ce soir à 20h45 à suivre sur RMC. Ce sera à Bollard évidemment pour la vraie grosse reprise du foot français à 5 jours du début de la Ligue 1. On a parlé de Joko qui a pris un gros coup de chaud à Cincinnati ou à Cincinnati, c'est au choix. À 2 semaines de l'US Open. Ah oui, bah on prend des cours alors pas d'anglais mais d'états-unien ce matin, d'allemand, c'est surprenant d'ailleurs. Beaucoup ont été surpris, Simon, sur WhatsApp par le fait que tu trouvais ça ludique, l'allemand.
Oui, certainement des gens qui ne se sont jamais essayés à la langue de Goethe.
Exactement. Ça peut être l'éclate, effectivement.
Je le recommande, c'est une belle surprise.
Les belles activités de l'été, apprenez l'allemand par exemple, pourquoi pas.
Alors à l'époque on nous poussait à faire de l'allemand parce qu'on nous disait avec la construction européenne, tout le monde va parler allemand bientôt, ce sera nécessaire pendant tous les boulots et tout. Bon, oui, on s'était un peu planté, mais ouais.
En même temps, comme tu nous cites Nietzsche et tout, ça sert parce que tu lis en version originale,
oui,
évidemment.
Oui, alors il n'est pas interdit de lire autre chose que l'équipe quand on vient au Grand Gueule du Sport. Pour être tout à fait transparent, je suis allé vérifier.
Moi j'écoute la radio.
J'étais pas sûr de mon Nietzsche hier, donc j'ai vérifié quelques minutes avant de le convoquer quand même.
Pas sûr de son Nietzsche, on est magnifique.
Ah, mais c'est quand même. On est dans des.
J'étais pas sûr de mon Nietzsche.
Bah attends, on a commencé l'émission avec Valorable. Moi, je trouve qu'on progresse beaucoup. Je trouve qu'on progresse beaucoup.
Ah ouais.
Bah, t'as fort là, c'est vrai.
Ce sera. Bah, du coup, c'est dommage qu'on ait déjà fait la punchline alors qu'elle est arrivée à 11h07. Quoi, tu vois, j'étais pas sûr de mon Nietzsche.
Il y en aura d'autres.
On va faire le bilan de l'athlétisme dans un instant avec les championnats d'Europe qui se terminent à Birmingham. Est-ce que ça a raté pour les Français parce qu'il n'y a pas de titre européen pour l'instant? On va en parler évidemment avec vous. Bah tiens, d'ailleurs, je crois qu'il est déjà sur place et il va nous accompagner sur cette dernière heure. C'est notre consultant athlé Teddy Tamgo qui est avec nous. Salut Teddy.
Salut.
Salut Teddy.
D'ailleurs là, je vous dis dans les grandes gueules du sport, Teddy, Marion, on a la génération 2013, hein, puisque Teddy était champion du monde du triple saut en 2013. Et Marion qui gagne Wimbledon en 2013. Je crois que Marion a quand même plutôt gagné les classements médiatiques de sportif de l'année. Hein.
Au journal de Mickey, elle était première.
Ouais, je crois que Teddy, Marion, elle t'a un peu ruiné ton année là pour aller.
C'est
avoir
pas grave. J'étais venu pour le titre. Mondial, je l'ai eu après, derrière. Franchement, quand après on s'embête entre Français, franchement, n'importe qui peut gagner, c'est plus beau.
Alors que si tu l'avais gagné, t'aurais dit je l'ai sur ma cheminée, c'est une fierté de ma vie.
Non, franchement, je passe très vite sur mes victoires en fait.
Et en 2013, sachez que Jérôme Pinault terminait au-delà de la 100e place du Tour de France, me dit notre producteur Maxime Abola.
Oui, par contre, j'ai gagné 5 étapes du Giro à Cavendish et 5 au Tour aussi.
Ah ouais.
Ça devait être dit. Bravo, Jérôme.
Simon Dutin a gagné partout. Là où il passait.
La belote, la Vardakaise. Ouais, la Vardakaise, j'ai rincé tout le monde partout. Hein.
Révisé Nietzsche avant et du coup, ça m'a inspiré.
Teddy, c'est comme ça quand t'accueilles dans la grande gueule du sport. Tu dois dire, où est-ce que j'arrive là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je les connais, les Nietzsche, les Spinoza, les Machiavel, etc.
On va partir dans un truc, les gars.
On peut y aller.
Allez, c'est parti.
Je vais vous laisser, moi. J'allais sur le marché.
On va mettre du plateau. Qu'est-ce qui se passe? Fin d'émission.
Je suis plus de la philosophie d'Hobbes.
C'est incroyable, les gars, on va faire. Oui, il y a deux écoles dans le DJ, Hobbes et Nietzsche.
Bon, ouais, moi je suis Hobbes.
Allez,
moi, je
suis Hobbes. En fin d'émission, en tout cas, participer au jeu du sport avec vous. Aujourd'hui, remporter un bon cadeau de 50€ à valoir sur Agfa Photoprint. Si vous voulez imprimer vos meilleurs souvenirs de vacances, eh bien voilà, vous pouvez appeler tout simplement à le 3216 touche 4 ou envoyer sport au 732-16. Sport au 7-32-16. Ben non, c'est juste l'émission, on parle de PSGOM, tu vois, on parle de Stade Toulousain à UBB, et là, la lutte Hobbes Nietzsche, je l'avais pas vu arriver, quoi. Voilà, je vais mouiller la nuque, mais d'abord, je vais ouvrir la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui nous a interpellé, c'est l'annonce du staff de Zidane sur le banc des Bleus. Un nom a fait beaucoup parler, c'est celui du champion du monde 98, Fabien Barthez, pour occuper le rôle d'entraîneur des gardiens. Il avait été conseiller technique avec Laurent Blanc, sélectionneur entre 2010 et 2012, et avant il avait aussi travaillé avec Raymond Domenech quand il était le patron des Bleus. Les GG, en fait, je voudrais qu'on parle de ça, parce que peut-être beaucoup ont dit « Ah, Fabien Barthez, ça fait un petit moment qu'il n'est plus forcément peut-être dans le coaching avec les jeunes gardiens de but. » Et c'est vrai que sa légitimité, elle est aussi sur sa carrière, surtout. Je voudrais qu'on parle de la parole des anciens champions. Est-ce qu'elle est forcément une plus-value ? Tiens, on va commencer. Bah, tiens, Teddy, moi, je voulais que tu sois avec nous dans la dernière heure, justement pour ça, parce que toi, Teddy, dans ta carrière, tu as été entraîné par un coach champion olympique, hein, Ivan Pedroso à Sydney, qui avait quand même une sacrée carrière. Et aujourd'hui, comme champion, toi, du monde, t'as entraîné aussi des entraîneurs actuels. À quel point la parole d'un ancien champion pour toi dans ta construction, elle peut avoir une valeur plus importante que quelqu'un qui n'a pas été champion, par exemple?
Alors moi, j'ai un avis assez nuancé par rapport à la situation, c'est-à-dire que dans un premier temps, je suis allé voir Ivan Pedroso parce que j'avais besoin justement de son expérience de champion. Ouais. J'étais fan de l'école cubaine, donc forcément, en fait, cela m'a conduit vers lui, étant donné qu'il vivait en Espagne en 2010. Donc j'avais besoin vraiment de son expérience, j'avais besoin de son, comment dirais-je, en tant qu'athlète, c'était une personne,
c'était en fait, référence
qui était
pour
très
toi.
Mesurée, très analytique, même c'est pourtant c'était le saut en longueur, c'était pas le triple saut, mais j'aimais le personnage en fait, ce qu'il dégageait, et son école en fait. Donc au final, cela m'a conduit à lui demander de m'entraîner. Et je trouve que ça a assez bien marché. Maintenant, je nuance mon propos parce que, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes un excellent athlète que vous allez devenir un excellent entraîneur. Maintenant, il est vrai que quand on a réussi sportivement, il y a une certaine légitimité, en fait. Il y a une certaine légitimité de la part des entraîneurs. Vous avez toujours, à un moment donné, que vous le vouliez ou non, à un moment donné, l'athlète, il va dire, ouais, mais toi, t'as fait quoi? Ça veut dire que quand je galère, quand j'ai des soucis, ok, tu vas peut-être me remonter les bretelles, mais est-ce que toi t'as vécu ce moment? Je me souviens Tony Yoka qui le disait, qui est un ami à moi, il disait très bien, oui, moi personnellement, il faut que je sois avec un entraîneur qui un minimum fait la boxe. C'est-à-dire qu'ils connaissent un minimum la pression, le fait de recevoir des coups, le défilement en fait des rounds et tout ce qui va avec en fait. Et ça avait du sens. Donc oui, quand on est sportif, lorsqu'on a été sportif de haut niveau, je pense que cela apporte un plus. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez été sportif de haut niveau que vous allez faire un bon entraîneur. Parce que derrière, il y a une transmission.
Et toi, quand tu arrives et que tu deviens entraîneur, tu te dis pas parce que j'ai gagné, en gros, je suis arrivé. Tu te remets en cause aussi. Tu te mets au diapason pour amener des techniques aussi à ceux que tu vas entraîner. Jérôme Pinault dans le vélo, il y en a beaucoup, hein, des champions. On en parle beaucoup de la transmission de l'histoire aussi. C'est quand même très cyclisme. Quelle est la valeur de la parole des anciens champions pour toi? T'es d'accord avec ce que dit Teddy?
Je reprends tout ce que dit Teddy et je répète la même chose. C'est pour moi indispensable d'avoir un passé de cycliste. J'ai pas été entraîneur, mais j'ai été manager. J'ai été entraîné par des grands. J'ai été entraîné par des anciens champions. J'ai aussi été parfois accompagné par des gens qui n'avaient pas fait de la très haute compétition. Et comme le dit Teddy, c'est dans les moments souvent très difficiles où tu le regardes et tu dis, mais tu sais ce que c'est toi? T'as souffert comme moi? Tu sais ce que c'est que d'être dans le dur? Tu sais ce que c'est que de faire 3 semaines de vélo, tu sais ce que c'est que de te lever le matin et d'aller prendre une tôle parce que t'es sûr que t'es pas prêt. Non, donc évidemment que ces gens-là ont un coup d'avance, les Bernardo, les Bramati, les Didier Rousse. Moi, c'est des garçons qui m'ont donné des conseils que j'écoutais parce que je sais que eux, ils avaient un palmarès et qu'ils étaient.
C'est quoi, quand t'es en difficulté, c'est plus vers ce genre de profil que tu te retournais?
Évidemment, je pense que quand tu...
Ce qui n'enlève rien à la légitimité des autres, hein, mais c'est naturel pour le sportif.
Évidemment, et comme le dit Teddy, je le rejoins aussi, c'est que c'est pas non plus parce que tu as été un grand que tu es un bon entraîneur. Pourquoi? Parce que l'élément essentiel dans tout ça, c'est expérience-transmission. Et s'il n'y a pas l'un ou l'autre, ça ne marche pas. T'as beau avoir été un très grand. Moi, je prends l'exemple très clair de Thomas Vauclair aujourd'hui à la tête de la sélection nationale. Thomas, pourquoi ça marche? Parce qu'évidemment, il a de très bons athlètes. Des très bons athlètes qui l'écoutent parce qu'ils sont un Julien Alaphilippe. Écoutez Thomas, parce que Thomas Vauclair, il a un palmarès. Mais parce que c'est Thomas aussi, c'est transmettre son histoire.
Ah bah surtout pour cette génération en plus. Il vient, il a arrêté juste avant. Ils ont grandi avec Vauclair.
Et ça, c'est très important. C'est pas le même discours avec cette génération-là que la génération passée qui parlait au Jalabert, etc. Mais Laurent Jalabert était un immense champion, mais la transmission, ça marchait pas.
Mais voilà,
parce qu'il y a aussi, je sais pas si tu me rejoins, Teddy et Marion, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'anciens athlètes de très haut niveau qui ont été des grands champions, qui ne parlent que d'eux et qui ne comparent les autres qu'à eux. Et à partir du moment où c'est ça, tu peux pas transmettre et ça marche pas.
Marion, tiens, sur le sujet.
Alors, je pense qu'il y a des éléments différents. Là où je rejoins totalement Teddy, c'est qu'effectivement, je trouve que dans la difficulté d'avoir dans son entourage, ou en tout cas, même si c'est pas un entraîneur au quotidien, d'aller poser des questions ou d'aller passer 2 heures ou 3 heures à discuter avec quelqu'un qui a connu les mêmes choses que toi, je trouve ça extrêmement enrichissant.
Donc là, par exemple, Barthez, c'est enrichissant pour Mike Maignan, peu importe peut-être même la qualité des entraînements par rapport à ce qu'il y avait avant en équipe de France. Il a déjà une richesse à donner à Maignan.
Voilà, exactement. Et puis, Fabien a été dans les cages sur une finale de Coupe du Monde. Comment on prépare ça? Comment mentalement on se prépare? Comment on rentre sur le terrain? Voilà. Tout ce partage d'expérience, c'est absolument extrêmement enrichissant et on apprend énormément. En revanche, effectivement, nous, dans le tennis, les trois plus grands champions qu'on a eus, c'est-à-dire Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, ont été entraînés par des entraîneurs qui les ont formés, qui n'ont pas été eux-mêmes des immenses champions. Donc, je trouve qu'il y a une différence, je pense, réelle à faire entre eux. Un entraîneur qui va être au quotidien avec vous, qui va faire le volume d'heures, qui va vous amener à un certain niveau, et puis de manière sporadique à des moments précis de votre carrière, des additions dans votre entourage parce que vous en avez besoin. Alors je pense à Roger qui a fait appel à un moment donné à Stéphane Edberg, je pense à Rafael Nadal qui a fait appel à Carlos Moya, je pense à Novak Djokovic qui a fait appel à Goran Ivanišević, auparavant à Boris Becker, parce qu'à un certain moment de sa carrière, il avait besoin justement d'échanger avec d'autres personnes qui avaient vécu des finales de Grand Chelem, qui avaient vécu des matchs à très haute intensité, qui avaient vécu parfois des défaites cruelles et comment on s'en remet. Et je trouve que ça vient à des moments différents.
Oui, mais il y en a qui ne savent pas le faire aussi, des anciens joueurs, des anciens champions, qui ne savent pas être dans cette transmission, même si tu as connu.
Exactement, mais je trouve que dans le tennis quand même, lorsqu'on entend par exemple aujourd'hui André Agassi qui va faire des choses avec l'USTA, qui est donc l'équivalent de la Fédération Française de Tennis mais aux États-Unis, je trouve que les fédérations ou même les jeunes aujourd'hui vont quand même chercher l'expérience des anciens champions parce qu'ils peuvent vous apporter énormément. Là où j'aimerais quand même évoquer pour moi une différence qui est importante, c'est qu'il y a une différence entre être entraîneur au quotidien qui demande un volume et un investissement qui est très important, et souvent les anciens champions n'arrivent pas à le faire parce que vous avez plus envie de partir de chez vous, de partir de votre famille. Je parle en tennis simplement.
T'as envie d'être un consultant, je connais plus.
Voilà. Je connais pas assez les autres sports pour juger en termes de volume horaire et d'investissement. Mais par exemple, sur un entraîneur tennis, vous devez faire 35 semaines en dehors de chez vous.
Ouais.
Bon, quand vous avez déjà fait ça pendant toutes vos carrières, c'est très, très compliqué de laisser votre famille, de se dire, je vais repartir 35 semaines sur le circuit. Certains le font, mais ça reste quand même de manière, très ponctuel et c'est peu d'entraîneurs qui le font. En revanche, aller chercher un Andy Murray, même pour Novak Djokovic, qui a été avec lui pendant 6 mois, des anciens champions, aller même discuter avec eux, aller les voir pendant une semaine
en stage. Toi, tu t'en es nourri, j'imagine, d'échanges.
Moi, par exemple, avec Amélie Mauresmo, typiquement, quand elle était capitaine de Fed Cup en 2013, je passais des heures à discuter avec elle et je lui ai posé 1 milliard de questions. Mais ça doit venir pour moi... d'une démarche, en tout cas sur un sport individuel. Là, c'est bien sûr ces individualités qui arrivent avec son staff. Mais sur un sport individuel, ça vient de l'athlète qui fait cette démarche. Et là où je rejoins Teddy, c'est que vous allez chercher une personne pour ce qu'elle va vous apporter. Et donc, il y a forcément une écoute qui va être très importante. Si on vous l'impose et que vous n'avez pas forcément envie de ça, oui, effectivement, vous allez peut-être le prendre du mauvais côté en disant, mais parle que de lui, elle parle que d'elle. C'est bon, elle me passe tout le temps parce qu'elle a gagné, que moi, j'ai pas gagné, machin. Alors que si vous êtes dans cette démarche-là d'aller écouter, alors, je cite toujours cet exemple, et effectivement, les gens se moquent de moi, mais bon, j'ai eu la chance de rencontrer Usain Bolt en 2013 parce que c'est un fan de tennis et il m'a invité chez lui pour le voir s'entraîner. Il était en période d'entraînement avec Johan Blake. Vous apprenez énormément, même si c'est des sports différents, et vous sortez de là.
Exactement.
Voilà. Comme Wemby. Et vous sortez de là en se disant, mais c'est, comme Wemby, c'est extraordinaire.
Comme Wemby, si cette semaine est allé faire du rugby avec Philippe Saint-André, notre GG.
Voilà, exactement. Et vous apprenez énormément d'autres sportifs.
Comme Florent Manodou, on en a parlé hier, qui est allé faire du handball et qui avait aussi c'est était prendre des choses d'autres sportifs, d'autres champions. La parole d'ancien champion est-elle forcément une plus-value? C'est le sujet du vestiaire. Teddy, je t'entendais valider ce que disait Marion là sur la difficulté peut-être quand tu as été sportif de haut niveau derrière comme entraîneur d'être là au quotidien tout le temps. Il y a aussi le fait que il faut que tu assumes que l'athlète que tu vas coacher, c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, comment t'arrives à changer le logiciel? On sait que par exemple, pour Thierry Henry, ça a été difficile quand il arrive à Monaco, parce qu'en fait, il coachait presque les joueurs comme s'ils étaient tous des Thierry Henry. Bah, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas tous Thierry Henry. Donc, toi, comment t'arrives à coacher tes athlètes en sachant qu'ils ne sont pas des Teddy Tamgo? C'est ça le plus dur à déconstruire.
Bah déjà dans un premier temps, lorsque j'ai commencé à entraîner, je n'ai pas été directement à haut niveau. J'ai commencé avec justement des jeunes, parce que je me suis dit qu'il fallait que je refasse mes classes du début.
Comme le fait Marion, Marion en ce moment. On en parlera tout à l'heure. Mais
oui, moi voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut revenir en fait à de l'humilité, c'est-à-dire de se dire que ok c'est bon, j'ai réussi, c'est cool, mais ça ne veut pas dire que je peux préparer un champion du monde, un vainqueur de Roland Garros, etc. etc.
Mais tous ne sont pas dans cette démarche, Teddy. Quand même, faut être conscient.
Oui, après, chacun fait ce qu'il veut.
Oui. Non, mais il y en a qui arrivent qui doivent se dire, je vais entraîner Bolt. Et alors?
Oui, bah c'est le gros problème. C'est vrai que j'ai pu le constater, n'est-ce pas, de la part de certains entraîneurs, n'est-ce pas, en athlétisme, c'est que après leur carrière, ils pensaient directement en fait qu'il leur fallait leur donner les meilleurs postes, ce qui n'était pas forcément le cas. Moi, j'ai préféré justement, je ne suis pas allé à l'INSEP, j'ai préféré repartir du début, partir m'exiler à Boulouris, entraîner et surtout me faire aider par Laurence Billy, qui était aussi une de mes entraîneurs pendant ma carrière. Laurence Billy qui a couru en 11 secondes 04 au 100 mètres, qui est une des plus grandes de l'histoire française. Donc j'ai accepté en fait aussi de me faire mentoré en fait dans mon approche, parce que je me suis dit qu'à un moment donné, tu as beau être champion de ce que tu veux, à un moment donné il faut revenir à de l'humilité.
Mais pourquoi? Parce que tu avais vu justement d'autres et tu te disais, j'ai pas envie d'être ça quand je serai entraîneur, justement avant, tu vois, d'autres qui se croyaient arriver, quoi. Tu t'es dit, moi je veux passer par là.
Je ne sais pas si consciemment, en tout cas j'ai eu cette pensée. Néanmoins, j'ai toujours été dans un système où quand j'apprends quelque chose de nouveau, quand j'apprends une nouvelle compétence, en fait, j'ai toujours besoin en fait d'avoir un mentor en fait à côté de moi, une personne qui va m'apprendre en fait le rouage. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est de l'athlétisme, ce n'est pas parce que j'ai travaillé directement dans le triple saut que cela veut dire que je serai un bon entraîneur. Donc j'ai besoin d'une personne justement qui a cette expérience, qui a ce vécu pour justement m'accompagner et me donner en fait la base et les premiers enseignements en fait, tout simplement. Et à partir de là, je crée justement ma logique,
ta méthode en fait. Ouais, ta méthode, voilà. En fait ton Teddy Tamgo entraîneur qui n'existait pas avant, parce que tu étais l'athlète.
Exactement.
Et tu as réussi à changer ça. Jérôme, tu voulais réagir?
Ouais, non, mais parce que là, pour parler de Fabien Barthez, je pense qu'on est assez tous d'accord. Et d'ailleurs, il y a le débat, il n'y a pas ses diplômes, c'est un scandale, etc. Il va pas mettre les plots et construire les séances, Fabien Barthez. Il va accompagner les trois sélectionnés par Zinedine Zidane dans l'accompagnement de la préparation à des grands événements, dans le... Exactement. C'est pas leur quotidien, il est en sélection. Par contre, qui de mieux qu'un garçon qui a gardé les buts pour une finale de championnat d'Europe et une finale de Coupe du Monde pour préparer mentalement, pour aller donner des conseils, des placements, des petits tips qui vont faire que Mike Maignan sera encore meilleur. Il n'y a pas besoin d'un entraîneur, Mike Maignan, il en a un dans son club. Donc s'ils font appel à Fabien Barthez, c'est pour la transmission. Et d'abord la transmission, c'est comme quand Zizou va être sur le terrain, il a ses adjoints, c'est pas lui qui met les plots et qui crée les séances. C'est du coaching plus que de l'entraîneur, ce que va faire Fabien Barthez. Et c'est là où, dans ce rôle-là, ben, je suis désolé, il n'y a pas mieux qu'une personne qui a fait du très haut niveau. Il n'y a pas mieux que quand tu regardes le mec dans les yeux, encore plus t'es dit quand tu vas chercher le champion et que tu dis, moi je veux travailler avec vous monsieur, ben, évidemment quand il va te parler, tu vas l'écouter. On te l'impose pas, c'est toi qui vas le chercher. Et ce gars-là, ben, c'est rarement le pimpin du coin qui entraîne les cadets, quoi. C'est souvent quelqu'un qui a un palmarès et avec qui t'es un peu badé quand t'étais jeune, évidemment.
Marion, quand c'est vrai qu'on le sait pas forcément, hein, parce que tu le répètes pas non plus à droite à gauche, mais t'entraînes des jeunes joueuses actuellement. Dans ta démarche pour aller entraîner, Teddy là a parlé un petit peu de ce qu'il avait motivé, comment il avait construit ce rôle-là. Toi, comment tu l'as construit?
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'entraîne trois joueuses, deux qui sont au niveau professionnel, qui vont jouer les qualifications de l'US Open, et une qui est vraiment une junior et qui est en formation. Et en fait, j'essaye à la fois de me remémorer mes années où effectivement j'étais à ces classements-là, ou mes années où j'étais junior. Et donc quand vous êtes junior, vous avez encore plus de doutes parce que vous êtes même pas encore sur le circuit professionnel. Donc vous vous dites, c'est ce que j'ai envie de faire, mais est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'élus pour beaucoup qui essayent. Donc il y a toute cette partie-là où il faut beaucoup rassurer les jeunes, beaucoup rassurer les parents, passer énormément de temps avec eux. Et puis ensuite des professionnels, mais qui sont à des classements où elles sont pas encore dans les tableaux finaux, mettons à du grand chelem, où elles peuvent vraiment gagner leur vie. Et donc il y a beaucoup de pression financière et une pression qui est différente à assumer. Et en fait, moi, je pars du principe que mon rôle, au-delà effectivement d'avoir un certain rôle technique, mais je passe pas assez de temps et pas assez de semaines avec elles pour avoir un réel impact technique, c'est en fait de leur transmettre une réelle confiance en elles qu'elles ont du mal à avoir. Et je trouve que les champions, quand vous discutez avec eux, en tout cas pour avoir échangé effectivement avec des champions d'autres sports que le mien, moi, ce qui me frappe énormément, c'est qu'ils ont une confiance absolument infaillible en leur capacité et qui ensuite ils mettent tout en place pour bien évidemment performer. Et je trouve que pour être avec ces joueuses-là au quotidien, quand j'échange avec elles, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est le manque de confiance qu'elles ont en elles avant d'aborder un match. Et donc mon rôle, au-delà de les aider à le préparer le mieux possible, tournoi du Grand Chelem qui va arriver, c'est de leur dire que c'est possible et qu'elles ont le niveau, et donc d'avoir quasiment plus confiance en elles qu'elles-mêmes ont confiance en leur propre capacité. Mmh. Et ça, c'est
et tu te sers de ton parcours, rôle... j'imagine aussi, pour leur donner
voilà,
confiance.
C'est un rôle qui est très c'est un rôle qui est très très important, et donc j'apprends aussi de mes erreurs. J'étais avec elles sur Roland Garros quand je me refais les semaines qu'on a fait ou les jours qu'on a fait avant ce tournoi. Je me dis, bah tiens, peut-être que là j'aurais pu faire une séance qui les aurait peut-être mis un peu plus en confiance, peut-être que sur ce match-là à un moment donné j'ai donné un tips qui peut-être, je l'ai dit d'une façon qui a créé chez elle un état de stress et j'aurais pu un petit peu mieux faire. Et en fait, vous apprenez vous aussi en se disant, bah, moi, j'avais une manière de recevoir l'information qui était d'une certaine façon, et la personne que j'ai entraînée ne reçoit pas l'information de la même façon que moi. Et donc, vous devez vous adapter en permanence. Mais c'est extrêmement enrichissant sur le plan personnel, et c'est comme ça que vous devenez meilleur dans le métier que vous faites. Mais là où je rejoins totalement Jérôme, c'est que c'est effectivement pas vous, 365 jours de l'année, qui allez faire toutes les séances, parce que c'est, en tout cas, c'est pas le rôle que je désire avoir, mais j'espère, et pour l'instant, sur les résultats, effectivement, c'est plutôt encourageant, que dans mon rôle qui est précis, je leur apporte quelque chose qu'elles auraient peut-être eu plus de mal à trouver chez un autre entraîneur. Mmh. Et ça, c'est pour moi une très grande fierté, parce que quand je les vois s'épanouir sur le terrain, être heureuses, gagner, avoir plus confiance en elles, mettre en place des choses qu'on a mis à l'entraînement, les voir faire ça en match, pour moi, c'est extrêmement enrichissant. Et pour ça, on n'a pas besoin d'entraîner Roger ou Novak uniquement des vainqueurs de Grand Chelem pour être heureux en tant qu'entraîneur. Mmh. Et je trouve que ça, c'est très, très important.
Fascinant de vous écouter, franchement, les amis, là, pour savoir un peu comment on doit faire reset, en fait, sur le logiciel du sportif de haut niveau pour devenir entraîneur, mais en même temps garder quelques outils pour pouvoir accompagner les jeunes sportifs ou des équipes en ayant été des anciens champions. Enfin, vous êtes des champions pour toujours, les amis, vous le savez. Je referme la porte du vestiaire. On retrouve évidemment cette discussion en podcast. Et dans un instant, on va parler d'athlétisme. Teddy, je te préviens, on va arriver fort. Hein. On va se demander si c'est pas un peu à rater.
Si c'est pas un peu à rater. S'il vous plaît, les gars.
S'il n'y a pas de médaille. D'or. Tu vois, ouais. Parce que le problème, en plus, ouais, tu passes après la natation où ils ont 50 000 médailles d'or.
Voilà, exactement. Donc là, c'est un peu compliqué.
Donc
j'ai envie
là,
de te dire.
Il va falloir que tu suives. Allez, on t'amène Aurélien tirer ça en renfort
aussi avec toi.
Je suis la Suisse. Je suis homme, c'est la Suisse. Voilà ce que je suis. Allez, on revient dans un instant sur RMC dans les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
On est avec Simon Butin, avec Marion Bartoli, avec Jérôme Pinault et Teddy Tamgo avec nous pour les Europes d'athlétisme à Birmingham. J'ai plein de messages sur WhatsApp, sur la transmission. Regardez Marc Madio, l'ancien champion qui transmet aujourd'hui, évidemment. On va pas dire ça, on va pas dire le contraire de notre GG en plus. Mais et aussi des messages pour dire, évidemment, il n'y a pas besoin d'être un ancien champion pour être quelqu'un capable de transmettre. C'est vrai, regardez Bob Bowman, par exemple. On a d'autres exemples. Regardez Pierre Sage, qui n'a pas eu une carrière incroyable et qui a une super carrière d'entraîneur aujourd'hui, alors qu'il n'a pas été forcément un grand joueur. Tony Nadal, c'est ça,
exactement. Marianne Vajda, qui a formé Djokovic.
Non, mais voilà, le débat, c'était pas de dire est-ce qu'il faut être un ancien champion pour être un crack, en fait. C'est juste quelle est la valeur, finalement, à donner à un ancien champion pour être un entraîneur derrière. Les amis, les jeux du sport, c'est dans un instant. Marion, on va voir si t'es toujours bien réveillée pour
je commence à piquer un peu du nez, mais bon.
Dans quelques instants, je rappelle que Marion est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais d'abord, donc, sur...
De l'autre côté aussi, mais l'autre côté, moi.
Ah, bah, regarde, mais attends, regarde, par la fenêtre, fais coucou à Marion.
Moi, je pique pas du tout.
vous savez que, en plus, Jérôme a des magnifiques pulls LA. Loire-Atlantique.
C'est
un américain. Voilà. Il va falloir te dire que il va falloir t'expliquer que les Jeux de 2028, c'est pas à Nantes. Hein. C'est bien.
Ah, c'est pas à Loire-Atlantique. C'est l'autre côté. C'est où est Marion?
Ah,
à Saint-Saint-Nathy. Pas loin.
Allez, les amis, le buzzer des GG, les championnats d'Europe d'athlètes se finissent aujourd'hui à Birmingham. Vous avez vibré sur RMC?
RMC, les GG sur le buzzer.
Et là, il y a de plus en plus d'écart. Je ne sais pas comment se sent Jimmy s'il attend les derniers tours pour mettre son fameux kick. Mais là, le Suédois semble sur une autre planète, malheureusement.
Et au sprint, Jimmy
Gressier. Et voilà. De l'autre côté du terrain. Et de l'autre côté de la piste. La et il a le kick, là,
allez,
Jimmy Gressier. Il a explosé. Il y a mal des périodes.
Il tiendra.
Jimmy Gressier, attention. Il va tenir jusqu'au bout. Kripa est quand même derrière. Il met un petit coup dans le rétroviseur, Jimmy. Allez, il va y aller. Faut y aller, mon grand. Faut prendre enfin.
C'est pour toi.
Ta première médaille européenne. Elle ne serait qu'en bronze. Mais on va l'apprécier. Et il va la kiffer, Jimmy. Les deux bras levés.
C'était hier soir le bronze de Jimmy Gressier que Teddy avait vu venir à un tour de l'arrivée. Ah, c'est bon, c'est pour toi, vas-y, avant même qu'il envoie son sprint sur le 10 000 mètres. Son sprint incroyable, hein. On se disait avec votre producteur Maxime Abolin, c'est t'as l'impression que c'est le gars dans la cour de récré qui t'a volé ta casquette.
Il se fait courser.
Ouais, même Jimmy a rigolé hein, sur sa dernière foulée, mais l'important c'est d'avoir la médaille au bout. Le bronze donc sur cette distance où il est champion du monde en titre, je le rappelle. On est donc avant cette dernière journée, la France compte 8 médailles et Teddy, il va falloir défendre le bilan. Aucun titre. 9 médailles, pardon, et aucun titre. Ah oui, il faut faire attention.
Le marathon par équipe.
Oui, le marathon. Bonjour Rien Tiercin. Bonjour Rien Tiercin.
Salut. Désolé Georges, mais j'étais obligé de le dire. Encore une médaille pour la France.
Bah incroyable.
Je prépare les arguments.
Toi t'es là pour la mise à jour direct. C'est incroyable.
Mais toujours pas de médaille d'or.
Ouais. Marathon par équipe. Hein. Faut l'expliquer
ouais,
ça.
Exactement.
Donc,
on prend les trois meilleurs marathoniens, on additionne leur temps et puis on se retrouve troisième.
D'accord.
Grâce notamment à Rodolphe Lévis et Valentin Gondouin.
On l'apprend. La médaille, les Bleus sont toujours loin au classement des nations. Ils étaient 17e ce matin. Je rappelle que c'est loin des 16 médailles, dont 4 en or lors de la précédente édition des Europes à Rome. Zéro titre pour l'instant, comme en 2022, comme au JO de Paris. On a 2 ans de Los Angeles. Les GG, je vous pose la question. Vous me répondez par oui ou par non. Vous me répondez par oui ou par non. Un championnat d'Europe sans champion d'Europe français, est-ce que c'est, attention le mot est fort, est-ce que c'est un fiasco? Jérôme Pinault.
Non, c'est un raté, mais c'est pas un fiasco.
Mario Bartoli.
Oui.
Waouh. Simon Dutin.
Non, mais tu me vois venir.
Teddy Tamgo.
Non.
On vous attend en 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424.
Il n'allait pas dire oui. 424. Sans douter.
Avant de débattre, les amis, Aurélien, je sais que tu regardes pas que le classement des médailles, c'est ta grande passion. Tu regardes aussi le classement qui évalue la densité d'une nation.
Ouais, les placing
exactement.
Tables. Ouais,
on est obligé de regarder la placing table parce que, évidemment, on est 17e au classement des médailles, mais tout est axé sur la médaille d'or. Donc, forcément, si tu n'en as pas, tu te retrouve très loin, alors qu'on a 9 médailles ce matin, et à la placing table, donc c'est 8 points pour la première place, 7 points pour la deuxième, etc., jusqu'à la huitième, et on est 5e à ce classement, au coude à coude avec les Pays-Bas,
yes.
Et on est devant la Suisse, l'Espagne, la Norvège, la Suède, la Belgique, parce que souvent on fait ouin ouin, on n'a pas du Plantis, on n'a pas Warhol, on n'a pas X athlètes, mais dans cette densité française. Mais quoi, dans cette densité française, on est 4e, 5e nation européenne. Donc voilà,
oui, on est 25e, mais c'est pas grave.
C'est quoi ça?
Non, et par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est quand même que depuis 2018, on a remporté 7 titres européens et que l'Italie, la Grande-Bretagne, on est en 23 chacune. Ça fait 3
ah
fois
oui,
plus.
Alors non, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'Italie a fait un travail monstrueux, phénoménal. Ils sont partout sur la marche, sur le triple saut, sur le sprint. Ça, l'Italie nous a mis une claque phénoménale. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'on est au fin fond de l'école européenne. On est vraiment derrière l'Italie et la Grande-Bretagne. C'est vrai. Mais on n'est pas loin des Allemands et des Néerlandais qu'on a tendance souvent à considérer comme étant.
Ce qui est étonnant,
aux Olympiques, ça va compter, ça.
Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a les championnats d'Europe d'athlètes en même temps que les championnats d'Europe de natation. Et que les Italiens, ils nous mettent la fessée dans le bassin et sur les pistes. Moi, mon nom, non, ce n'est pas un fiasco. Je disais, tu me vois venir. C'est encore une fois, tout est à rapporter aux expectations, aux espoirs, à ce qu'on attendait. Est-ce qu'on avait vraiment des favoris, des favorites dans beaucoup d'épreuves? Et encore une fois, on s'est découvert un champion du monde du 10 000 mètres. Je m'en remettrai jamais avec Gressier qui hier Vinaigre aurait réussi à nous décevoir s'il n'avait pas obtenu une médaille. Encore une fois, c'est prodigieux. Je pense qu'on est à notre place. Malheureusement, on manque de tête d'affiche, on manque de leader dans beaucoup de disciplines. En sprint, on n'existe pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux du côté des filles ces dernières années, ces derniers mois que chez les garçons. Mais encore une fois, on manque de d'athlètes qui peuvent rivaliser, qui peuvent se pointer sur les sautoirs, sur les pistes, en disant c'est moi qui repars avec la médaille d'or. Et c'est pour ça que bon, quand t'arrives sans rêve, sans espoir infondé, tu peux pas sortir de ces championnats d'Europe en te disant que c'est un fiasco.
Avant d'écouter Marion, parce que je sens que t'es énervé. Teddy, Tango, personne fait ouin ouin ici. Enfin, je sais pas, on va voir. Mais toi, tu veux défendre le bilan français. Je sais pas. Ou en tout cas, tu veux pas dire que c'est un fiasco. C'est le mot un peu fort.
Non. Je pense que le mot il est assez fort parce qu'on a quand même 9 médailles. Donc ça montre quand même qu'il y a une certaine diversité à haut niveau dans plusieurs disciplines. Pas simplement, on va dire, on n'est pas simplement concentré, n'est-ce pas, sur une discipline. On arrive justement à produire de la performance un peu partout, ce qui est une très bonne chose. Et puis forcément, entre la deuxième place, la troisième place et la victoire, en fait, c'est certains détails, en fait, certains petits réglages à mettre en place. Et peut-être que certaines de ces médailles se transformeront en or dans 2 ans, ce que j'espère en tout cas. Mais voilà.
On a encore le temps, en fait, c'est ça le truc.
Mais moi, j'ai une question. Ouais. J'ai une question
pour toi. Attendez, juste un autre chiffre. Il faut que je vérifie. Mais on a 31 finalistes et je sais même pas si c'est pas un record au championnat d'Europe. 31 finalistes. En fait, il nous manque Tamgo, Lavillenie et autre Lemaître. Ouais, mais la densité, elle est Mayer, presque meilleure.
Oui, non, mais quand on participe, on est content. C'est bien. Non, mais c'est bien.
C'est un problème de talent pur. Si on les a pas, on les a pas.
Marion.
Alors moi j'ai une question pour Teddy parce que ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais avoir ton avis. À la limite, on va dire que le cas de la Grande-Bretagne c'est peut-être un peu différent parce qu'ils ont cette continuité de culture de la victoire. Ils avaient déjà 7 titres en 2018, 6 en 2022, 4 en 2024. Je crois qu'ils en sont déjà à 6 en 2026. Donc à la limite, ok, on peut se dire que la Grande-Bretagne, voilà, ils ont une espèce de savoir-faire. Moi, ce qui m'interroge très fortement, c'est l'Italie, parce que l'Italie quand même en 2018, elle était extrêmement loin derrière nous et qu'aujourd'hui ils nous mettent quand même 8 titres à zéro. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2018 qu'on n'a pas été capable de faire?
Je pense que déjà, ils ont centré en fait tout autour de la fédération. Ils ont appelé entre guillemets tous les entraîneurs. Ils ont dit écoutez, voilà l'objectif. À vous de faire ceci. Voilà, il y avait une feuille de route qui était claire, qui était nette, qui était précise. Ensuite, il y a un point avec lequel je discutais hier avec un entraîneur français. Un ami d'enfance qui était là pour les championnats d'Europe. Et en fait, on s'est dit, mais au triple, les gens sont choqués de voir les Italiens en fait réussir, mais on oublie en fait ceux qui ont un peu de connaissance en fait sur l'entraînement doivent savoir en fait que les Italiens ont beaucoup développé en fait la pliométrie. Ils ont été des précurseurs, des personnes qui ont fait avancer justement la science à ce niveau-là. Donc en fait, concrètement, les gars, ils avaient déjà un savoir. Maintenant, ils ont juste cherché à lui donner un sens.
À se structurer, en fait. À bien structurer leur performance, en fait.
Et donc, exactement, tu me dis qu'en France, on n'a pas ce savoir, alors?
Je ne sais pas si on... Moi, personnellement, je ne sais pas, puisque je ne vais pas me positionner là-dessus. Maintenant...
Non, mais j'essaye de comprendre, tu vois.
Après, ce que tu dis, Marion, ça marche aussi pour le tennis. Les Italiens, ils nous mettent une rouste depuis quelques temps.
Bien évidemment, mais par contre, on sait pourquoi.
D'accord. Et Teddy, lorsque tu dis ils ont tout concentré autour de la fédération, moi, spontanément, j'ai envie de me dire, et nous, pourquoi on n'a pas fait ça? On fait comment
c'est ça qui est intéressant, c'est d'analyser les autres.
Pourquoi on n'y a pas pensé, nous? Ça paraît assez basique, quand même.
Le souci, en fait, il y a une bonne... Ce qu'ils ont fait est une bonne chose. Encore une fois, mais je précise, comme je le dis à certaines personnes avec qui je discute sur ce sujet, je dis écoutez, vous avez la France. J'étais pas parti de l'Italie, j'étais parti en fait des Pays-Bas, puisque les Pays-Bas depuis quelques années ils sont monstrueux, avec un tout petit pays qui arrive à produire en fait de la grosse performance. Les États-Unis. J'ai dit en fait les Pays-Bas, ce qu'ils ont dit, ils ont dit ok à tous les athlètes, ils ont dit si vous venez au centre national, vous êtes pris en charge à 100%. Tout est pris
bien
en
sûr,
charge.
T'es dit, c'est toi qui as
raison. On met une équipe, etc. Ok, maintenant il y a les Américains. Les Américains, eux, c'est plus, ok, faites ce que vous voulez. Il y a 15, les sportifs ont fait pratique 4-5 sports. Il y a le système universitaire. Ils ont un système en fait qui est propice en fait à l'éclosion justement de leurs stars, à leur manière, bien sûr. Il n'y a pas forcément la minutie justement que vont avoir les Pays-Bas. Et puis je dis, mais en fait, vous savez quel est le problème de la France? J'ai dit, le problème, c'est qu'on est entre deux. on est à la fois un plus gros pays par rapport aux Pays-Bas, donc on peut pas en fait se calquer à eux, mais on est à la fois un trop petit pays pour se calquer sur les États-Unis. Donc en fait, concrètement, ce que je dis, c'est qu'il faut être singulier. Certes, il faut regarder un peu ce qui se fait ailleurs pour avoir certaines inspirations, etc. Cependant, en fait, française devrait être la méthode française.
Copier une façon de faire, se dire on va faire ce que font les Italiens pour réussir ou ce que font les Britanniques, ça ne marcherait pas forcément en France. Jérôme, tu voulais dire quelque chose?
Non, mais moi je suis 2000% d'accord avec Teddy. On parle de la natation, vous parlez de l'Italie, moi je parle des Pays-Bas que je connais un peu mieux parce que j'ai évolué en Belgique, en Flandre et donc tout près de chez eux. C'est simple, la définition elle est simple. Nous, c'est l'illustration, l'athlétisme, tous ces sports olympiques. On n'est pas un pays de sport. On se donne pas les moyens et on ne donne pas les moyens à ces sports-là de bien travailler. À partir du moment où on tape dans les budgets du sport, dans les budgets de l'éducation nationale et notamment le sport à l'école, qu'on met pas en place des choses avec nos gamins, combien de temps ça fait que les gamins au collège, ils font plus les épreuves entre collèges, ils font les relais, ils font les 100 mètres, ça fait d'une éternité. On a coupé tout ça et résultat des comptes, on est à la ramasse sur ces sports-là. C'est tout. C'est aussi une question d'envie quand nos politiques montent sur les podiums. Je le dis à chaque émission quasiment, mettez-leur un coup de latte, descendez-les de la photo, descendez-les du podium, parce que c'est pas là qu'on les attend. On les attend à la base, et à la base ils y sont pas parce que ça brille pas. Sauf que pour faire un très bon nageur et pour faire un très bon athlète, eh ben il faut travailler à la base, dans la masse. Il y en a un paquet de jeunes qui seraient très bons dans ces sports-là, mais faut aller les chercher. Faut pas avoir peur d'eux, faut pas avoir peur des milieux dans lesquels ils évoluent, et ça intéresse pas nos politiques.
Ben voilà, en tout cas on est à 2 ans de Los Angeles bien sûr, et bon, on espère. Voilà, Teddy, toi, t'es encore enthousiaste pour voir l'athlétisme français se relever. Il reste 2 ans avant Los Angeles, qu'on n'a pas de titre aujourd'hui sur ces championnats d'Europe. En fait, ce qui nous fait peur, c'est que c'est un championnat d'Europe. C'est-à-dire, quand ça arrive au championnat du monde,
exactement,
aux Jeux Olympiques, on se dit, c'est le sport le plus global, avec une densité dingue. Aux Europes, on a été tellement habitués, que ce soit même avec ta génération, Teddy, ou encore avant, à scorer, que la comparaison avec la natation, en même temps, vous fait mal, très clairement, à l'athlète. Et on espère que ça va performer peut-être sur cette dernière journée. On va suivre soit avec vous les gars, évidemment, on aura des rendez-vous bien sûr ce soir avec notamment la longueur féminine avec Hilary Bacha, avec la finale du 1500 mètres féminin avec Agathe Guillemot. On va surveiller la finale de la perche aussi parce qu'il y a Armand Duplantis bien sûr, et il y aura également un Français pour cette finale. Teddy, Aurélien, merci d'avoir été avec nous les gars, vous avez été parfaits, vous n'avez pas envoyé des placing tables dans tous les sens.
Aurélien a commencé par ça quand même.
C'est ma préférée, je suis dessus jour et nuit.
Les gars, vous êtes magnifiques, on vous retrouve évidemment avec grand plaisir tout au long de la journée sur RMC, et ben on va surveiller bien évidemment le bilan. Teddy, t'es le bienvenu quand tu veux dans la grande gueule du sport, évidemment. tu viens avec tes livres de philo, amigo.
Voilà.
Allez, dans un instant on revient les gars avec les jeux du sport, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, dernière ligne droite avec Simon Dutin, avec Marion Bartoli, avec Jérôme Pinault, tout de suite. On joue.
RMC, les jeux du sport.
J'ai notamment un message de Chris, souvenez-vous, sur WhatsApp, qui nous a dit tout à l'heure, je vais partir me recoucher, je vais pas aller rouler tout de suite, qui nous dit, je vais attendre que Marion Bartoli perde au jeu et ensuite je vais aller rouler.
Dis donc. C'est vraiment Chris, c'est alors. Mais du coup, on fait comment, les faisait qui, parce qu'on est que 3?
Eh ben, on va accueillir l'une des voix du tennis sur RMC, notre rédacteur en chef du week-end. Anthony Reich est là, salut Anthony.
Salut Georges, bonjour les GG.
Anthony, rédacteur en chef du week-end, il connaît tous les sports.
T'as mis de la crème sur les fesses, Anthony.
Je savais, mais il fallait bien que je te laisse gagner une fois, Jérôme.
Hier, j'ai pris 7-0.
Là, je prends pas en.
Anthony a retrouvé sur le podcast rare. Cours numéro 1, évidemment. Podcast de tennis a retrouvé sur toutes les plateformes de téléchargement. L'US Open arrive. Je vous rappelle le principe 2 contre 2. Vous défendez un auditeur. Je répartis les équipes. Marion Bartoli avec Simon Dutin. Et Jérôme Pinault.
Je suis pas sûr que Christophe. En service, c'est en premier, je vais au filet, j'intercepte.
T'es pas sûr que Christophe va aller
rouler. Il attend que Marion perde, ça va être compliqué.
Tu te remets. Hein.
C'est bon. Ouais, c'est bon, on est là.
Je vous rappelle que la question impossible est activable par un seul joueur par émission. Une bonne réponse, c'est 3 points. Mauvaise réponse, c'est 1 point au moins. J'accueille les auditeurs. Fabien de Haute-Garonne. Salut Fabien.
Bonjour Olivier.
Et Alexandre qui nous appelle du Gard. Salut Alexandre.
Salut les
GG. Merci les gars d'être avec nous. Je vous rappelle qu'il y a un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint à gagner. Fabien, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Bartoli Dutin ou Pinoresche.
Et avec Marion, c'est bon.
Avec Marion, ouais, carrément, avec Marion. Voilà. Oui, c'est moi, mais je fais moi, c'est moi.
Eh ben ouais, vous êtes jaloux, je m'en fous.
Allez, c'est parti. Bartoli Dutin contre Pinoresche. Question à une seule réponse, les amis. Une seule réponse. Dans quelle discipline Elena Kola a remporté la médaille d'argent au championnat d'Europe.
La poutre.
Le sol.
Au sol, Anthony Reich.
Ah oui, le sol.
Joué, la poutre, elle est championne.
Tu vois, Jérôme, je suis là.
Je sais qu'elle a dit qu'elle a une médaille d'or. C'est bon, Jérôme.
Allez, 1-0.
1-0 pour l'équipe Pinoresche. Question à plusieurs réponses. L'an dernier, le français Terence Atman s'est fait connaître à Cincinnati en atteignant les demi-finales. Mais face à qui avait-il été éliminé l'année dernière en demi-finale? Qui l'a battu? Il lui avait donné une carte Pokémon. Il lui avait donné une carte Pokémon.
Sinner.
C'est moi.
Bien, Marion.
Non, c'est moi. 7-6-2.
La VAR.
7-6-2.
C'est pas parce qu'elle. Non, t'as pas demandé le score.
Non, il n'y a pas de.
Bah, je le dis, quand même. Tu l'as pas demandé.
C'est Marion. Bien, Marion.
C'est dégueulasse.
Merci.
C'est un scandale.
À partout. Fabien et Alexandre, c'est pour vous. Question pour les auditeurs. Vous donnez votre réponse. Et ensuite, votre prénom, s'il vous plaît. Comme ça, je peux bien identifier. Qui est qui? Quel champion du monde a signé au PSG hier?
Fabien.
Wow. Bravo Fabien.
Le prénom.
C'est beau, j'aime bien, ça me plaît.
Fabien a donné son prénom très vite, c'est le point.
Bien, Fabien, bravo.
Beaucoup d'intox.
Non, pas du tout.
Question à une seule réponse. Dans quel club a refusé d'être transféré Pierre-Emi Hjulberg?
Newcastle,
Simon Dutin.
Bravo Simon. Je savais que je pouvais compter sur toi.
Marion ne répond pas sur les choses qui lui font du mal. Donc, joueur de l'OM qui ne part pas parce que l'OM a besoin d'argent, ça lui fait du mal. Donc elle ne répond pas. 3-1 pour l'équipe Bartoli Dutin.
Ah, c'est pas ça, Simon l'a répondu en un quart de seconde. Qu'est-ce que je redis après?
Allez, écoute, c'est un crack.
Je le dis,
c'est un crack. Question à plusieurs réponses. Les frères Lebrun se sont imposés au grand smash. Dans un grand smash pour la deuxième fois de leur carrière. Mais c'était où?
Malmö.
Il est là, dès que c'est une balle, des raquettes. Allez, hop, ça va mieux.
Je vous rappelle que Malmö s'écrit avec un O tréma. C'est pour un petit moment culturel.
Et Cincinnati,
S-I-N-T-I-R-E. Question pour vous, les auditeurs, Fabien et Alexandre. 3-2 pour l'équipe de Fabien. Donc pour Bartoli Dutin, vous donnez votre réponse et votre prénom. Quel attaquant du LOSC et ancien international français s'est blessé hier? Qui a dit Giroud? Alexandre.
Bien joué, Alexandre.
C'est pas grave, Fabien.
Il reste 2 minutes 19 de jeu. Attention. Question élimination pour 2 points. Vous répondez à tour de rôle une erreur et vous êtes éliminé. Championnat d'Europe de natation actuellement. Citez-moi tous les champions d'Europe français en individuel depuis 20 ans. Qui a été champion d'Europe en natation? On commence par Marion Bartoli, parce qu'elle a gagné Wimbledon.
Florent Manoudou,
c'est bon. Anthony Reich.
Marie-Ambre Molu
a ajouté depuis hier, c'est bon. Simon Dutin.
Léon Marchand.
Tiens, a ajouté depuis hier. Jérôme Pinault.
Laure Manoudou,
bien joué. Marion.
Alain Bernard,
bien joué. Anto.
Yannick Agnel,
c'est bon. On cherche les champions d'Europe de natation français en individuel depuis 20 ans. Simon Dutin.
Amaury Leveau,
en individuel, c'est pas bon. Éliminé. Jérôme Pinault. 5-4.
Jérémy Stravius.
Alors là, je ne l'ai pas, mais je suis presque sûr qu'il y est. Demandez la VAR, Maxime Apollin, notre producteur.
Ah oui, il a été champion
d'Europe avec Camille Lacour, ex aequo, à vérifier. Donc, pour l'instant, tu restes en jeu, Anthony.
Fred Bousquet,
c'est bon. Stravius, c'est bon.
C'est chaud là.
Marion.
Oui.
Camille Muffat. Camille Muffat
Non.
Championne olympique, pas championne d'Europe, Maria Bartoli.
Ah bon,
bon.
Ah
mince. Allez, Jérôme.
Stravus, c'est pas bon, c'est que des relais, me dit Maxime Abolin, notre producteur éliminé. Donc il reste. Et donc il reste plus qu'Anthony Reich. Anthony, t'en as un dernier?
Camille Lacour.
Camille Lacour, c'est gagné.
Oui, oh,
oui, Jérôme. Qui, le temps est écoulé. Donc la victoire est pour l'équipe Pinorès.
Mais oui.
Voilà, donc la victoire est pour Alex. Félicitations, tu remportes le bon cadeau. Ouais. Avec la photo print.
Magnifique. Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
Et je suis rassuré.
J'ai une question. Ouais. Attends, Camille Muffat ou 200 mètres 4 nage à Budapest, c'est pas les Europes?
Alors, vérification de Maxime Abola, notre producteur, qui du coup est bien embêté. Elle a pas de titre à Budapest, me dit Maxime Abola. Donc là, normalement, si. Là, j'ai confiance totale en mon producteur. Hein.
Joli bluff, Marion.
Je tiens à dire.
C'est moche, Marion.
Si c'est moche, c'est pas bon. C'est vérifié, visiblement, c'est pas bon. Bah ouais, mais peut-être que
Camille Muffat, 200 mètres 4 nage à Budapest. Ancienne ministre des sports, les gars, qui a été
championne. Peut-être que l'intelligence artificielle a pas marché ce coup-ci. J'avais
horreur de dire.
Esther Marron, Charlotte Bonnet, il y avait Coralie Balmier, Alexandre Castel, il y avait
Franck Esposito.
Il y avait du monde, évidemment. Bon, c'était un peu laborieux, je peux le reconnaître. Mais en tout cas, je suis content pour Chris, notre auditeur, qui voulait aller rouler après la défaite de Marion. Ouais, il va pouvoir y aller. Merci Marion d'avoir été avec nous. On se retrouve à Bartoli Time
le week-end
prochain, évidemment. Beaucoup de nouveautés pour la rentrée. Avec Jérôme Pinot, merci. Anthony Reich,
salut les copains.
Avec plaisir.